Cette émission est une rediffusion.
Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce numéro du magazine des Nations Unies. Les titres. Baisse du taux de mortalité due à la variole du singe dans le sud Kivu, c'est une des retombées de l'amélioration de la prise en charge des malades avec les fonds alloués par l'UNICEF. C'est ce qu'explique le porte-parole de la division provinciale de la santé au sud Kivu. Vous l'entendrez. Les notables de Banyali Tchabi en Ituri, satisfaits de la collaboration entre la MONUSCO et la communauté locale, ils l'ont dit à une délégation de la MONUSCO qui s'est rendue mardi 15 octobre dans la zone. Une mission qui visait à s'imprégner de la situation sécuritaire, également évaluer l'impact du travail des casques bleus sur place. Daniel Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en RDC PNUD, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette page d'actualité commence à Kinshasa. Investir pour la paix et la stabilité de la RDC, c'est promouvoir le développement de l'Afrique. C'est le thème choisi pour célébrer le deuxième anniversaire du Forum d'études des relations internationales du Congo. C'était mardi dernier dans la capitale congolaise. Cette organisation a pour mission d'encadrer des jeunes diplomates congolais. Présents à cette soirée diplomatique, la représentante du secrétaire général de l'ONU, des chefs de mission diplomatique, des professeurs d'université et des étudiants. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, parle ici des priorités de la mission onusienne pour la paix en République démocratique du Congo. Elle est au micro d'Étienne Lissoumbou.
Soutenir le processus de Luanda, soutenir les efforts de la facilitation angolaise, les Nations Unies et la MONUSCO et d'autres partenaires, et réitéré par le Conseil de sécurité, nous sommes tous là pour soutenir ces efforts. Et nous pensons qu'il faut absolument utiliser ce processus pour arriver à la stabilisation de l'Est, et en particulier le Nord Kivu.
Le gouvernement congolais sollicite l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ainsi que la mobilisation de la communauté internationale pour la gestion de plus de 7 millions de déplacés internes en RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre cette semaine à Genève, en Suisse, entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le Haut Commissaire. Jacquemin Chabani dit avoir aussi demandé la facilitation du HCR pour une tripartite avec les pays voisins pour le retour des réfugiés dans leurs pays respectifs. On écoute Jacquemin Chabani dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre, parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Et il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Et nous avons aussi insisté sur la tripartite autour du HCR avec les différents pays qui sont concernés par la présence des réfugiés sur le sol congolais ou la présence de réfugiés congolais sur leur sol, de manière à ce qu'on se convienne formellement avec ces différents pays, que ce soit la Centrafrique, surtout le Rwanda.
En Ituri, la chefferie de Walese et Vonkutu nécessite un renforcement des effectifs militaires dans les zones reculées de la forêt afin d'éradiquer définitivement la rébellion des ADF dans cette région du territoire d'Irumu située à la limite avec le Nord Kivu. Alpha Apaebo, l'un des représentants de la chefferie, a exprimé cette préoccupation mercredi dernier à une délégation de la MONUSCO en mission à Komanda, c'est à 75 km de Bunia, une mission pour évaluer le travail des casques bleus dans la zone. Alpha Apaebo explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Voyez aux autorités militaires de lancer une opération à grande envergure.
Nous demandons aux autorités militaires de lancer des opérations de grande envergure en profondeur de cette entité pour faciliter l'accès à la population à leurs champs. Nous recommandons à la MONUSCO d'appuyer financièrement le comité de suivi mis en place dans le cadre de l'accord de cohabitation pacifique et de cohésion sociale entre les Enandés dans la chefferie des Wallace et Vonkutu. Nous plaidons également pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, surtout la construction du pont dans les villages Vonkutu pour faciliter l'évacuation des produits champêtres. Nous demandons au gouvernement central de réhabiliter la route nationale numéro 4 qui est dans un état de délabrement très avancé.
Signalons que la chefferie de Wallace et Vonkutu a été à plusieurs reprises la cible des attaques de rebelles des ADF. Son bureau administratif a d'ailleurs été incendié à cette occasion. Le peuple du monde a célébré jeudi 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. En RDC, 9 de 26 provinces vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. Parmi ces entités, le représentant résident du PNUD en RDC cite la province du Sankuru. Se basant sur les statistiques des autorités congolaises, Damien Mama révèle que 9 personnes sur 10 dans cette partie du pays vivent avec moins de 2 dollars par jour, comparativement à Kinshasa, où c'est la moitié de la population qui est exposée à la pauvreté. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies attribue ce phénomène aux crises multiformes qui affectent le monde. Cependant, il loue les efforts déployés par les autorités congolaises à travers le programme de développement de 145 territoires pour résoudre ces problèmes. Damien Mama, au micro de Ronli Ntibonera.
Pour éliminer la pauvreté, il faut des investissements simultanés dans presque tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, l'investissement privé, les infrastructures de base, mais en ayant aussi à l'esprit les éléments de durabilité et s'assurer que toute personne qui court le risque d'être laissée de côté est prise en compte. Alors donc ces investissements simultanés demandent beaucoup de moyens, les moyens dont les États africains ne disposent pas généralement, mais quand on prend par exemple la RDC où l'État a quand même réussi à augmenter les recettes intérieures, à plus que doubler le budget général de l'État, ce sont des signes encourageants qui montrent que, avec un peu plus d'efforts en matière de mobilisation de ressources internes, mobilisation de ressources externes et aussi une bonne allocation de ces ressources dans les secteurs qui peuvent impacter durablement la vie des communautés, donc on a espoir que nous allons pouvoir faire des progrès un peu plus rapides. Mais c'est très clair que si les crises multiples qui ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté continuent, ce sera extrêmement difficile.
Santé, pour boucler cette page d'actualité, dans la province du Sud-Kivu, le taux de mortalité dû à la variole du singe est en baisse, cela grâce aux mesures que la Division provinciale de la santé a mises en place avec le fonds mis à sa disposition par l'UNICEF. Des centres de traitement de la variole du singe fonctionnent dans les 32 zones de santé affectées sur les 34 que compte le Sud-Kivu. La qualité de la prise en charge des malades s'est améliorée selon le porte-parole de la Division provinciale de la santé, Dr Claude Baïziré, le dit au micro de Jean Kassami.
Le taux de mortalité était déjà autour de 0,6, mais le taux est revenu autour de 0,47. Donc il y a la gestion de la prise en charge qui s'est améliorée, la gestion aussi de la communication qui s'est améliorée. Ça nous permet d'avoir plus de malades, mais aussi à les soigner sans beaucoup de difficultés. Nous sommes, c'est vrai, malheureusement à 47 décès, mais quand vous voyez la vitesse de perte de patients par rapport à quand on a commencé, ça a diminué. Avec cette démarche, nous pensons que, en tout cas, d'ici peut-être novembre, décembre, nous sommes sûrs que la situation va continuer à s'améliorer davantage et à contenir cette maladie que le monkeypox. L'UNICEF nous a envoyé à la DPS autour de 240 000 et ces fonds sont bien répartis dans les commissions et chaque commission utilise ces fonds comme il se doit. Tout est bien centralisé, bien géré au niveau de la division de finances, division de la santé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Dr Anne-Marie Toumba. Elle est directrice au programme national de la santé de la reproduction à l'UNFPA Kinshasa. Elle nous parle de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. C'est dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Dr Anne-Marie Toumba, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. C'est quoi son objectif?
Merci beaucoup. Objectif de l'installation création de ce comité, c'est pour faire la promotion des activités de la planification familiale. Faire la promotion des activités familiales, c'est pouvoir donner le choix aux hommes, aux filles et aux femmes du Maniema de pouvoir choisir parce que leur destin leur appartient et de pouvoir surtout participer au développement de la province. Un couple qui fait de la planification familiale choisit le moment où il doit faire les enfants, le nombre d'enfants à faire, quand, parce que on voit qu'il y a beaucoup de décès dans la province. Les décès sont plus dus à des grossesses trop nombreuses et des grossesses trop rapprochées ou des grossesses qui arrivent chez des jeunes filles avant 18 ans et tout ça, ça engendre que le corps ne peut pas s'adapter et ça amène la femme à la mort. Et une femme qui va accoucher pour donner la vie, c'est une vie perdue pour rien. Donc c'est vraiment contre ça qu'on est en train de se battre pour aider les femmes parce qu'elles ne savent pas. Il existe des méthodes naturelles et des méthodes modernes pour faire la planification familiale. Et ça, les hommes doivent bien les accompagner. Nous avons eu un aura très positif avec les autorités de la province. Tous les ministres que nous avons rencontrés, ils sont tous très, très soucieux de la santé de la population du Maniema et ils veulent à travers le travail que ce comité composé des ministères santé, plan, budget, éducation, genre, ainsi de suite, vont faire en compagnie des partenaires qui aident la province. Ils veulent vraiment aider la province à ce que ça soit fini les décès des femmes pour les causes d'accouchement.
À part la promotion de la planification familiale, quel sera le rôle de ces comités installés?
C'est sensibiliser aussi, promouvoir, sensibiliser, donner l'information. Et puis après, le ministère, à travers le gouvernement, qui va donner les moyens aussi. Ils ont promis fermement de donner les moyens de pouvoir former les gens qui donnent la planification familiale, renforcer les capacités des prestataires. Ils vont approvisionner, ils vont même créer une ligne budgétaire qui va faire qu'on puisse, dans la province, s'approvisionner aussi. Ils vont même aider aussi certains produits qui sont déjà disponibles à Kinshasa, qui ne sont pas arrivés ici, tout simplement parce qu'il manque de moyens de transport, à ce que ces produits puissent arriver ici et puis que ça arrive vraiment dans tous les 18 zones de santé, dans tous les centres de santé qui existent au Maniema, afin que quand la personne a besoin, qu'elle puisse trouver, qu'elle ne puisse pas avoir un besoin qui ne soit pas satisfait.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement, qui va assurer les frais de fonctionnement pour ces comités? Parce que quand vous dites il faut les acheminements des médicaments, il faut ceci, tout ça, ça demande des moyens, mais aussi qui va chaque fois doter des médicaments à ces comités.
Le gouvernement national achète des médicaments pour le pays. Et quand ils achètent les médicaments, dernièrement, nous, on a pu en acheminer un peu jusqu'ici au Maniema. Donc le gouvernement national achète et puis les gens aident à amener jusqu'ici dans la province. Et puis les partenaires aussi qui sont dans la province, nous avons le Fonds des Nations Unies pour la population qui travaille aussi sur les questions de santé, des droits sexuels et reproductifs. Ils vont aider aussi le SANRU, tous les partenaires qui travaillent et nous allons même chercher d'autres partenaires pour qu'ils essayent de venir aider la province qui a déjà la volonté affichée. On sait que c'est dans un contexte de peu de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont la volonté. Ils mettront le peu de moyens qu'ils pourront, mais les partenaires vont nous aider aussi à mettre les moyens.
Alors, qu'est-ce que la coordination nationale attend de ces comités récemment installés?
Le comité national attend que le comité provincial se mette à l'œuvre pour pouvoir accompagner la population de la province à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à les utiliser, à pouvoir choisir les méthodes de contraception modernes qu'ils veulent, parce que quand on a bien fait sa contraception, on ne va plus être exposé aux problèmes de mortalité maternelle pour des causes évitables. La mortalité néonatale et maternelles sont très élevées dans la province. Alors, comme la planification familiale, c'est une des stratégies qui aide à réduire jusqu'à 30%, c'est pour ça qu'on a pensé, on a discuté et les autorités de la province sont bien d'accord d'accompagner, qu'ils vont faire le nécessaire pour que la population connaisse ses droits, qu'ils donnent aussi le peu de moyens qu'ils peuvent donner et le gouvernement national aussi donne et les partenaires qui nous accompagnent dans cette matière-là des droits sexuels et reproductifs, parce que les partenaires sont toujours encouragés quand ils voient que le gouvernement aide lui même met la main à la pâte et les partenaires vont faire ça de cœur joie.
Docteur Anne-Marie Toumba, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Journée mondiale de l'alimentation. À Goma, le programme alimentaire mondial PAM affirme dans une déclaration que cette journée revêt une importance particulière pour cette région riche en ressources, mais confrontée à des défis majeurs en ce qui concerne la faim et la malnutrition, deux maux qui affectent en particulier des milliers de personnes déplacées. Pour le chargé de communication du PAM en RDC, ce moment doit être saisi pour sensibiliser sur les enjeux de la sécurité alimentaire. Une délégation de la MONUSCO s'est rendue dans la chefferie de Banyalitchabi. Nous sommes en Ituri, c'était mardi dernier. Sur place, les notables représentants du chef de cette zone ont affirmé que la MONUSCO les aide dans beaucoup de choses, que ce soit sur le plan sécuritaire que pour le développement local. Cette délégation de la mission onusienne au Congo s'est rendue sur place pour s'imprégner de la situation sécuritaire, également évaluer l'impact du travail effectué par les casques bleus dans le cadre de leur mandat de protection aux des civils.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en RDC PNUD. Dans son entretien avec Ronelli Tibonera, ce haut fonctionnaire de l'ONU passe en revue la situation de la pauvreté en RDC, cela en marge de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Suivez.
Monsieur Damien Mamar, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons aujourd'hui sur Radio Okapi dans un contexte de tensions bien sûr et des crises humanitaires en Afrique et dans le monde. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée. De manière particulière, quel est l'état des lieux que vous faites en République démocratique du Congo?
Effectivement, le monde entier et la RDC sont confrontés à une multitude de crises aujourd'hui. Le monde n'a pas encore réussi à sortir des conséquences de la pandémie de COVID-19. Vous savez qu'en 2020 et 2023, il y a eu plus de 65 millions de personnes qui ont été plongées dans la pauvreté du fait de cette pandémie et la RDC n'est pas restée à l'abri. Et la deuxième crise à laquelle le monde est confronté et qui n'épargne pas aussi la RDC, c'est la crise du multilatéralisme, dont l'illustration même est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, renchérit les prix et rend les denrées de première nécessité plus difficiles à accéder pour les populations les plus pauvres. Et le monde a été quand même été habitué depuis la création de l'ONU en 1945 à des méthodes de résolution pacifique des conflits, mais il s'est fait que avec la crise du multilatéralisme, les États sont moins capables de résoudre les conflits par le dialogue et sont obligés de passer par les armes, ce qui affecte comme conséquence directe les personnes les plus pauvres. Et quand on prend l'effet combiné de ces différentes crises, un pays pauvre comme la RDC en paye aussi le prix fort et les populations qui sont concernées n'arrivent pas à répondre à leurs besoins quotidiens, surtout dans un contexte où les prix des denrées de première nécessité ont augmenté un peu partout. C'est pas seulement en RDC, c'est partout en Afrique et c'est partout dans le monde.
Quelles sont les régions aujourd'hui de la République démocratique du Congo qui plongent dans une pauvreté assez alarmante et quelles sont les réponses qu'apporte aujourd'hui votre programme?
Lorsqu'on se situe à l'échelle provinciale et qu'on interroge les statistiques de la RDC en matière de pauvreté, on se rend compte qu'il y a à peu près 9 provinces qui sont vraiment en dessous de la moyenne en termes de personnes qui sont en mesure de faire face à leurs besoins quotidiens. Vous prenez une province comme le Sankuru où 9 personnes sur 10 vivent en dessous de $2.15 qui est le seuil de pauvreté par jour. Comparé à Kinshasa où c'est à peu près la moitié de la population, qui est confronté donc à la pauvreté monétaire. Alors donc, quand vous comparez le Sankuru, la Mongala ou la Chuapa à Kinshasa, vous le comparez au Katanga, on se rend compte bien sûr que pour des organisations comme nous et aussi pour le gouvernement, il y a un besoin de pouvoir rééquilibrer ces écarts qui entrent certaines provinces, mais à l'intérieur des provinces aussi, les écarts sont importants hein, entre les milieux urbains et les milieux ruraux et c'est pour cela que les investissements que le gouvernement fait en matière de protection sociale, en matière de santé maternelle, en matière d'accès à l'alimentation et aussi les infrastructures de base dont les populations ont besoin comme les écoles, les centres de santé qu'on est en train de construire à travers le PDS 145 territoires sont des leviers importants qui contribuent à réduire ces écarts et à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté sur toute l'étendue du territoire national de la RDC.
Les ambitions se multiplient. D'ici là, nous serons en 2030, ce qui nous donne l'écart de presque 5 ans et demi. Monsieur le représentant, des défis pour l'élimination existent et comment faire pour les mettre dans les oubliettes?
Pour éliminer la pauvreté, il faut des investissements simultanés dans presque tous les secteurs de la vie, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, l'investissement privé, les infrastructures de base, mais en ayant aussi à l'esprit les éléments de durabilité et s'assurer que toute personne qui court le risque d'être laissée de côté est prise en compte. Mais c'est très clair que si les crises multiples qui ont plonger des millions de personnes dans la pauvreté continue, ce sera extrêmement difficile.
À cette journée internationale de lutte contre la pauvreté, quel message vous adressez à la population congolaise qui vous écoute à travers la radio Okapi?
La réduction de la pauvreté est possible et ça demande l'effort de tout le monde, de nous tous, le gouvernement, le secteur privé et tous les auditeurs qui nous écoutent. Parce que chacun ou chacune à son niveau peut apporter sa contribution à l'édifice de la nation congolaise.
Monsieur Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement ni dans sigle en RDC, Radio Okapi vous remercie.
Merci.
Au Nord Kivu, au moins 80 ex-combattants démobilisés et jeunes à risque sont dans la phase finale de leur formation de réinsertion socio-économique. Ils clôturent ainsi 3 mois d'une formation en réparation du téléphone mobile à Goma. Ces enseignements ont été assurés par l'entreprise Nokia ASBL et financés par la MONUSCO à travers le Fonds de réduction des violences communautaires, CVR. Bernard Denyangui a visité ce projet et nous propose ici ce reportage.
Ce sont en tout 45 garçons et 35 filles désœuvrés ou sortis il y a quelques années des forces et groupes armés. Après 3 mois de formation théorique et pratique, ils vont maintenant être déployés par nombre de 8 pour former 10 ateliers. Tous les matériels nécessaires pour leur insertion sont déjà disponibles. Ces jeunes qui étaient déjà dans l'incertitude ne peuvent plus cacher leur joie. Témoignage.
Je serai dans mon atelier où je serai rémunéré, ce qui m'évitera des problèmes de l'oisiveté au quartier. Je veux dire merci à la MONUSCO.
Le coordonnateur provincial adjoint du programme PDDRCS chargé des opérations encourage cette initiative de la MONUSCO qui, pour lui, est un modèle très pratique de réinsertion communautaire.
Ces jeunes gens vont entrer maintenant dans la communauté avec un bagage, un métier qui va aider leur famille. Et demain, ils vont se retrouver dans la vie et n'auront plus encore besoin de rentrer dans la forêt. Voilà ce qui est très important dans ce projet.
Après le déploiement de ces jeunes, un suivi et accompagnement sur le terrain sont prévus pour se rassurer de leur bonne évolution. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Dans vos agendas, 2 dates à retenir pour la semaine qui commence. Le 24 octobre, 3 événements. C'est la journée mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. C'est aussi la journée mondiale des Nations Unies et en même temps, le début de la semaine du désarmement. Autre date à noter, le 27 octobre, journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Paul Badianyama était à la coordination technique. Babel Pongo Massimango au micro. Jeff Opel à la production, coordination et à la réalisation. Merci à vous tous et à dimanche prochain pour un nouveau numéro.
Cette émission est une rediffusion.